La détermination de l'Iran de revenir sur le marché mondial du pétrole immédiatement après la levée des sanctions avec un quota analogue à celui d'avant les sanctions anti-iraniennes ne serait en aucun cas affectée par les décisions de l'OPEP+, a déclaré le ministre du pétrole, Bijan Namdar-Zenghaneh. S'adressant aux journalistes après la 18e réunion ministérielle de l'OPEP et des non-OPEP tenue par vidéoconférence vendredi, Zenghaneh a déclaré que l'Iran avait déclaré sa décision officielle lors de la réunion concernant son intention de revenir sur le marché pétrolier dans les plus brefs délais, après le retrait des sanctions américaines. Quelle que soit la décision prise lors de la réunion, cela n'affectera pas notre détermination, a-t-il souligné. Lorsque les sanctions seront levées, l'Iran reviendra sur le marché mondial du pétrole dès que possible, en produisant du brut au moins au niveau d'avant les sanctions, a déclaré M. Zenghaneh. Interrogé sur les longues discussions lors de la réunion de l'OPEP+, le ministre a déclaré qu'il existe une série de différends entre les membres, certains estimant que les actions ont été attribués de manière injuste. Les prix du pétrole ont continué de grimper jeudi, alors que des articles de presse suggéraient que l'OPEP+ envisageait une augmentation de la production de 2 millions de barils par jour d'août à décembre. Mais l'accord a été bouleversé après que les Émirats arabes unis ont bloqué un plan d'assouplissement des coupes et leur prolongation jusqu'à fin 2022. L'Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses alliés, un groupe connu sous le nom de OPEP+, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses alliés, un groupe connu sous le nom de OPEP+, envisage d'ouvrir les robinets pour permettre à davantage de barils d'entrer sur le marché alors que la demande continue de se redresser après avoir été pillée par la pandémie de coronavirus l'année dernière. Le central nucléaire de Bushehr en Iran a repris ses activités, interrompues pendant 2 semaines pour une révision, rapporté le samedi 3 juillet la chaîne publique iranienne IRIB. Après les travaux de réparation, la centrale de Bushehr est de nouveau opérationnelle et injectera 1000 MWh d'électricité dans le réseau électrique du pays, a fait savoir le média IRIB, citant Mostafa Rajab Mashadi, porte-parole de la compagnie d'électricité publique Tanavir, cité par Reuters. En effet, l'Iran a été confronté à des pannes d'électricité attribuées, selon les responsables, à une hausse de la demande d'électricité au cours de cet été chaud et sec. Partout dans le monde, les centrales nucléaires en activité doivent être régulièrement mises à l'arrêt pour des opérations de maintenance ou de rechangement du combustible nucléaire alimentant le réacteur. Le 29 mars, Mahmoud Jafari, directeur adjoint de l'OIEA, avait déclaré que son organisation avait du mal à fournir certains produits ou services nécessaires au bon fonctionnement de la centrale de Bushehr à cause des sanctions américaines. Si aucune solution n'est trouvée, a-t-il ajouté, la centrale fera face à de graves problèmes cette année et nous craignons qu'elle doive cesser son activité. Mashadi n'a pas révélé samedi si un déblocage a pu permettre à Téhéran de résoudre le problème évoqué par M. Jafari en mars. La France doit se préparer à la guerre des drones, alerte un rapport du Sénat. Un rapport de la Commission de la Défense du Sénat constate que les forces armées françaises disposeront de plusieurs milliers de drones d'ici 2025, contre quelques dizaines seulement il y a 4 ans. Face à cette menace croissante qui pèse à la fois sur le territoire national et sur le champ de bataille, alerte un rapport parlementaire dont l'AFP s'est procuré copie. Intitulé « Se préparer à la guerre des drones », un enjeu stratégique sur rapport de la Commission de la Défense du Sénat qui doit être présenté mercredi constate que depuis 2019, un rattrapage capacitaire est en cours. Les forces armées disposeront de plusieurs milliers de drones d'ici 2025 contre quelques dizaines seulement il y a 4 ans. En 2020, 58% des frappes en bande sahélo-sahériennes ont été assurées par des drones Reappear, armée depuis fin 2019. Le programme Eurodrone, qui a vocation à remplacer les Reappear à partir de 2028, est enfin sur des rails après une longue période de négociations avec les partenaires allemands, espagnols et italiens. D'autre part, la France a accéléré l'acquisition de petits drones, dits de contact. Salue le rapport en rappelant que 210 nanodrones, Drop et 67 microdrones NX-70 ont été livrés depuis 2019 et que 150 microdrones Anafi de Paro destinés aux trois armées viennent d'être commandés avec un objectif de 900 en 2025. L'enjeu est de taille au vu de l'importance croissante des drones sur le champ de bataille. Plusieurs conflits récents, non seulement la guerre au Haut-Karabakh en 2020, mais aussi les combats en Libye en septembre 2019 et la campagne turque dans le nord de la Syrie en mars 2020, ont été marqués par l'utilisation massive de drones tactiques et de petits drones. Selon des modes opératoires nouveaux, guidage de tir d'artillerie, l'orage vol en essaim, attaque, suicide, pour pénétrer les défenses solaires adverses et qui préfigurent les conflits de demain où les drones seront omniprésents, note le rapport. À l'instar d'Israël et de la Chine, la Turquie et l'Iran se sont lancés dans la production à grande échelle et l'exportation de ces drones bon marché, rappellent ses auteurs. Selon le rapport, il faut ainsi envisager d'acquérir une capacité semblable de drones beaucoup tôt et sacrifiables. Micro-drones simples destinés à servir de leurre ou à mener des attaques saturantes. Micro-drones armés qui ne seraient cependant pas des armes autonomes et drones d'attaque un peu plus gros, capables d'emporter des munitions téléopérées. La France doit impérativement étoffer son parc de drones et se doter de capacités de protection face à cette menace croissante qui pèse à la fois sur le territoire national et sur le champ de bataille, alerte un rapport parlementaire dont l'AFP s'est procuré copie. Il faut privilégier des processus d'acquisition agiles, rapides. J'ai le sentiment qu'on n'a pas adapté nos processus d'acquisition à l'évolution galopante des technologies, estimées récemment l'un des auteurs du rapport, Cédric Perrin, lors d'une intervention sur le sujet au Paris Air Forum. Un incendie dans la Caspienne s'est déclaré. Une explosion sur une plateforme de forage pourrait être à l'origine du feu. Alors que, selon de premières informations, un incendie s'est déclaré sur une plateforme de forage en mer Caspienne, le ministère azerbaïdjanais de l'écologie estime qu'il s'agit de l'éruption d'un volcan, tandis que la société pétrolière azerbaïdjanaise SOKAR a affirmé qu'aucun incident n'avait été enregistré sur ces ouvrages. Des langues de feu ont été filmées en mer Caspienne par un témoin. Une première hypothèse avance l'idée d'une explosion suivie d'un incendie à bord d'une plateforme offshore, mais a été démentie. Aucun incident sur les plateformes de forage en mer Caspienne n'a été enregistré. Selon de premières données, il s'agirait d'une éruption d'un volcan de boue, a fait savoir la compagnie nationale pétrolière et gazière d'Azerbaïdjan et SOKAR. Il n'y a pas eu d'accident et les travaux se poursuivent sur les plateformes offshore et les installations industrielles relevant de la SOKAR. Il se peut que l'explosion soit due à l'éruption d'un volcan de boue, a indiqué la société pétrolière dans un communiqué. Certaines informations parues précédemment avaient fait état d'un incendie suivant une explosion sur une plateforme de forage dans le secteur azerbaïdjanais de la Caspienne. Selon les médias azerbaïdjanais, l'explosion dans la Caspienne résulte d'un processus sismique et a une origine géologique. Les spécialistes sont en train d'étudier l'incident. À l'heure actuelle, les spécialistes du ministère et du Centre national du service sismologique se penchent sur les raisons de l'explosion en mer. D'après une version préliminaire, la cause de l'explosion est l'éruption du volcan, a-t-il souligné dans un communiqué. Les témoins avaient supposé que l'explosion s'était produite sur le gisement de gaz du mythe. Ce dernier a été découvert fin 2010 et recèle, selon les estimations des experts, quelques 200 milliards de mètres cubes de gaz. Le Kremlin promet une réaction dure si le destroyer de la Royal Navy revient en Crimée, tout en rappelant les paroles de Vladimir Poutine selon lesquelles des incidents comme celui avec le destroyer de la Royal Navy en Crimée servent à chercher les points faibles frontaliers et ceux du système de riposte du pays. Dmitri Peskov a indiqué que la réaction de la Russie sera dure en cas de récidive. Dans le sillage de l'incident impliquant le HMS Defender qui a violé la frontière russe au sud de la Crimée, le 23 juin, le porte-parole de Vladimir Poutine a souligné que le destroyer n'était qu'un instrument de provocation. Il a rappelé les paroles du président, expliquant que de cette manière, certains points faibles dans l'intégrité de la frontière et dans le système de riposte étaient explorés. Je pense que nos services de renseignement savent qui a pris la décision, mais bien sûr, je pense qu'au fond, des opérations pareilles sont planifiées par des camarades d'outre-mer, a déclaré Dmitri Peskov dans une interview accordée au programme Moscou-Kremlin-Poutine. Sans avoir envie de discuter de scénarios apocalyptiques, le porte-parole a cependant indiqué que si des situations pareilles se répètent, la réaction de la Russie sera dure. Et surtout, comme l'a dit le président, les informations que les avions de reconnaissance ont reçues n'étaient pas celles qu'ils allaient recevoir. C'étaient les données que la partie russe a considérées nécessaires de fournir, a-t-il ajouté. Le 23 juin, la Russie a annoncé avoir tiré des coups de semence contre un destroyer britannique qui a, selon Moscou, pénétré dans ses eaux territoriales au large de la Crimée. D'après la partie russe, un avion Su-24M a largué par précaution quatre bombes à fragmentation hautement explosive de 250 mm le long du parcours du destroyer HMS Defender. Le vaisseau a ensuite quitté les eaux russes, mettant fin à l'incident selon la défense russe. Londres a démenti les déclarations de Moscou, assurant qu'aucun coup de semence n'a été tiré vers le HMS Defender et rejetant l'affirmation selon laquelle des bombes ont été larguées sur sa trajectoire. Lors de sa séance de questions-réponses avec la population ce mercredi 30 juin, Vladimir Poutine a indiqué que la provocation au large de la Crimée impliquait non seulement les Britanniques, mais aussi les Américains. Dans le même temps, il a estimé que la réaction russe au passage du HMS Defender dans ses eaux territoriales n'avait pas placé le monde au bord d'une guerre d'envergure.